Gilles Bogart, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint en charge des finances de Pernod Ricard. On va parler de votre exercice 2013-2014. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait beaucoup parlé de la Chine, puisqu'il y avait eu un premier impact. Est-ce qu'on peut dire que la Chine reste aujourd'hui le point noir, en tout cas pour vous, dans vos activités ?
Sur l'année 2013-2014, oui, c'était l'une des principales difficultés avec l'échange. On a eu une baisse du chiffre d'affaires de 23% à changer périmètre constant, alors que l'année précédente, on avait une croissance de 9% et que 2 ans avant, on avait une croissance toujours supérieure à 20%. Donc on a eu très clairement l'impact du ralentissement macroéconomique chinois et surtout de la campagne anti-dépenses ostentatoires qui a impacté notamment le très haut de gamme, qui a impacté les canaux traditionnels, KTV traditionnels, qui a impacté le marché des cadeaux. Pour autant, on termine l'année tout d'abord avec des stocks sains, puisqu'on a fortement déstocké sur la fin de l'année fiscale. Les stocks ont baissé en valeur de 20% par rapport au début d'exercice. Et les dernières tendances sous-jacentes du dernier trimestre sont plutôt encourageantes. C'est certes seulement 3 mois, c'est une période de basse saisonnalité, mais on a renoué avec des depletions positives, des sorties grossistes positives sur la marque Martell sur les 3 derniers mois de l'année. Donc on commence à voir une amélioration graduelle de tendance en Chine qui est de bon augure pour l'année 2014-2015.
Donc ça sera vraiment à confirmer effectivement dans les prochains mois si on retrouve un marché plus dynamique, mais on ne retrouvera pas le marché chinois tel qu'on l'a eu en tout cas.
Globalement, notre vision à moyen terme, ça reste une Chine en croissance à disons 8-9%, certes pas les 20-25% qu'on a pu avoir il y a 2 ou 3 ans, néanmoins ça reste une très belle croissance. On pense qu'on est capable de renouer avec ce type de croissance à moyen terme grâce à l'émergence des classes moyennes, compte tenu du fait que les spiritueux importés représentent simplement 1% du marché des spiritueux en Chine. On va probablement moins se développer dans le très très haut de gamme, mais plus dans les marques premium et super premium qui sont finalement le cœur de notre activité au niveau mondial. Donc on est confiant sur le moyen terme et en 2014-2015, on envisage un début d'amélioration de la situation en Chine.
Si on enlève ce poids hein, de la Chine, en dehors de la Chine, donc les autres marchés globalement, vous étiez à peu près en ligne sur ce que vous attendiez ou...
Il y a quand même eu un contexte global macroéconomique et pour l'industrie difficile. Hors Chine, les ventes ont cru de 3% en croissance organique. Les marchés émergents, globalement, ont été à moins 2% et hors Chine, ils ont été à moins 7%. À plus 7%. Donc plus 7%, ça reste une croissance solide. Elle est plus faible que la croissance à deux chiffres qu'on avait il y a encore 18 mois ou 2 ans, mais ça reste une bonne croissance et notamment c'est le cas en Inde, en Afrique, au Brésil par exemple. En Europe de l'Est, on a quand même gardé une croissance de 8%, même si on a eu un ralentissement assez net en Russie. Donc globalement, les marchés émergents restent solides. Vous voyez, on a une croissance de 1% des marchés matures, avec notamment une amélioration de la situation en Europe de l'Ouest, que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni, en France. Ça reste difficile en Espagne, on n'a pas encore d'amélioration dans nos chiffres, mais les premiers signes d'amélioration commencent à poindre. Et enfin, on a eu une année un peu soft, on va dire, aux États-Unis. On a une croissance modeste de 1% dans un marché qui a ralenti par rapport à l'année précédente.
J'imagine que vous l'avez vu comme moi, il y a des titres de presse disant « Pernod Ricard en difficulté supprime 900 postes ». Est-ce que le Pernod Ricard en difficulté, pour vous, c'est la réalité ?
Vous connaissez parfois les raccourcis médiatiques. Non, on n'est pas en difficulté. On a une période, effectivement, avec un contexte qui est plus difficile. Pour autant, on est très confiant dans nos fondamentaux, dans la force de nos marques, dans la stratégie de premiumisation et dans le potentiel de croissance, je dirais, sur la durée de nos activités. De manière très, très claire, on a estimé qu'il fallait qu'on améliore notre efficacité opérationnelle pour être plus efficace, pour accélérer nos processus de décision, pour être plus simple dans nos modes de fonctionnement, pour nous focaliser aussi sur les grandes priorités du groupe, en clarifiant les rôles des différentes entités, les sociétés de marque, les sociétés de distribution. C'est de ça dont il s'agit, c'est de ça, c'est ça qu'Allegro cherche à faire. Et bien sûr, une des conséquences de ce projet, comme on cherche à simplifier, à être plus efficace, à mutualiser. Il y a un certain nombre d'économies, 150 millions d'euros, nous confirmons cet objectif sur 3 ans, qui vont être délivrés et ça implique certaines réductions de postes dans le monde entier.
On a parlé de la Chine en introduction. Vu le contexte géopolitique, on peut penser aujourd'hui à la Russie avec l'embargo russe. Est-ce que vous pouvez être touché par cet embargo russe et de quelle manière ?
Écoutez, aujourd'hui, on reste en croissance en Russie. On était à plus 5% l'année dernière. Aujourd'hui, notre activité n'est pas impactée par l'embargo. Il est clair que nous suivons la situation autour de la crise ukrainienne avec beaucoup d'attention.
On a vu dans le secteur aussi des vins et spiritueux que ça bouge. En tout cas, il y a des batailles boursières. Alors, ça se passe en Australie, c'est un peu loin, mais c'est un secteur qui vous intéresse. Quel est le regard que vous portez justement sur ce secteur du vin ?
Globalement, le vin fait partie des activités de Pernod Ricard. Je dirais que c'est une activité complémentaire de l'activité des spiritueux. Ce n'est pas l'activité principale. Hein. Elle pèse pour à peu près 5-6% du chiffre d'affaires du groupe. Nous nous sommes d'ailleurs récemment renforcés dans le vin en acquérant la marque de vin californien Kenwood avec l'ambition finalement d'avoir une taille critique dans le vin, notamment aux États-Unis qui est un marché important, et d'ajouter une origine importante à nos vins. On avait des vins australiens, des vins néo-zélandais, des vins espagnols, des vins argentins. On a désormais un vin américain. Mais je dirais que globalement, on a aujourd'hui le portefeuille qui nous convient dans le vin. On pense que c'est suffisant pour dégager la croissance, et une croissance créatrice de valeur, et nous ne voyons pas de nécessité de procéder à de nouvelles acquisitions dans le vin.
Un mot peut-être des États-Unis. On voyait Ballantine's qui était en repli, au global en tout cas. Le marché américain, il a été comment de votre point de vue ?
Il a été un peu mou. Globalement, c'est un marché qui reste en croissance, avec une croissance plus faible que celle de l'année précédente. Les marques premium continuent à tirer leur épingle du jeu. Néanmoins, il y a certaines catégories sur lesquelles on a un environnement concurrentiel très fort. C'est le cas des alcools blancs et notamment de la vodka. Donc c'est vrai qu'Absolut a eu une année difficile. On s'en tire beaucoup mieux sur les marques d'alcool brun. C'est le cas de Jameson qui a continué sa croissance à deux chiffres. Ou par exemple The Glenlivet ou Martell qui devient une nouvelle priorité pour nous aux États-Unis. L'innovation, c'est clé. On a beaucoup de projets d'innovation qui ont été lancés. Notre whisky canadien Wiser's, Avion, Helix, la marque super premium de la gamme Absolut. Il faut un petit peu de temps pour que ces projets aient un impact tangible sur les chiffres, mais nous sommes confiants dans le futur. Pour l'année prochaine, on s'attend à un marché américain qui va rester, je dirais, en croissance molle, avec notamment le canal on-trade qui restera peu dynamique.
Le mot de la fin sur le nouvel exercice, comment vous l'envisagez aujourd'hui avec un certain nombre de facteurs de risque qu'on a évoqués, mais globalement pour vous ?
Globalement, on pense qu'on va commencer à avoir une amélioration graduelle de nos ventes, à la faveur notamment de l'amélioration progressive de la situation en Chine. Pour autant, l'environnement global restera tendu. Ce sera le cas sur les prix. C'est vrai qu'on a réussi à avoir une croissance de nos prix de 2% l'année dernière. On ambitionne d'avoir toujours une croissance l'année prochaine, mais probablement à un niveau un peu inférieur. Et c'est vrai que le marché américain, pour nous, restera sans doute un peu tendu. Sur le front des changes, on s'améliore à avoir une amélioration après une année, une annus horribilis, on va dire, en 2013-2014, où on a eu un impact défavorable de moins 199 millions d'euros sur nos résultats. Donc un impact de moins 8% sur le résultat opérationnel courant. Sur la base des taux actuels, on s'attend à une amélioration, sans doute une évolution positive. Et c'est vrai que depuis le 1er juillet, le dollar s'est apprécié de 1,37 à un peu moins d'un 32. Et dans ce contexte, on va bien sûr continuer la mise en œuvre du projet Allegro, avec comme objectif que la mise en œuvre soit finalisée sur l'année 2015. Et nous ambitionnons d'augmenter l'investissement derrière nos marques clés et derrière nos projets d'innovation stratégique, notamment à travers le réinvestissement d'une partie des économies d'Allegro. Sur les 150 millions d'euros d'économies, on ambitionne de réinvestir au moins un tiers sur 2 ans derrière nos marques clés.
Merci Gilles Bogaert d'avoir été avec nous.
Je vous remercie.